Vous écoutez RTL.
Une semaine de Coupe du Monde est déjà l'heure de tirer un bilan de l'assistance vidéo. Qui a joué son rôle et pas forcément de façon positive. On va essayer de comprendre pourquoi.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Bruno Derrien.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans ce studio. Je rappelle que vous êtes ancien arbitre international. Rappelons en quelques mots aussi comment fonctionne cette fameuse VAR, cette vidéo assistance. D'abord, qui fait appel à cette VAR? Uniquement l'arbitre central?
C'est simplement l'arbitre central qui peut initier l'analyse vidéo. L'arbitre assistant vidéo peut uniquement recommander une analyse à l'arbitre. Et il y a 4 cas où la VAR rentre en considération. Validité d'un but, ce qui n'est pas entaché d'une faute. Situation de pénalty dans la surface de réparation, ou ce qu'il y a pénalty ou pas. Carton rouge ou pas, il y a un tac, il y a une faute méchante. L'arbitre hésite entre le carton jaune et le carton rouge. Et enfin, pour identifier un joueur, par exemple, il y a une échauffourée sur le terrain, une bagarre générale. L'arbitre ne sait pas qui a commencé, donc il demande la vision des images. Alors, pour prendre une décision.
Vous venez de l'évoquer, l'assistant vidéo peut aussi suggérer à l'arbitre d'aller voir les images. À quel moment ça devient de l'influence, vous comprenez? Et ça peut éventuellement perturber son jeu.
D'abord, ce sont 4 assistants vidéo internationaux. Ce sont des arbitres qui sont reconnus par la FIFA, qui arbitrent dans les championnats nationaux et internationaux. Alors, ça n'a pas forcément toujours bien marché. On va prendre par exemple le cas d'Espagne-Portugal, le but de Diego Costa, où il met un coup de coude à Pepe, le portugais. Là, l'arbitre central, a priori, interroge son arbitre vidéo, qui ne voit pas le coup de coude. Donc, lui ne se déplace pas, parce que l'arbitre central a aussi le pouvoir de se déplacer au bord de la ligne de touche et de prendre lui-même la décision sur l'écran de contrôle. Il ne l'a pas fait. Il y a aussi, on peut citer un autre cas, sur Suisse contre le Brésil, le but de Zuber, le Suisse, il pousse dans le dos Miranda. Là encore, l'arbitre ne fait pas appel à l'assistant vidéo et l'assistance vidéo ne lui recommande pas d'aller voir les images. Donc, il y a eu quelques ratés quand même dans cette Coupe du Monde.
Et dans l'autre sens, on est d'accord pour dire que l'assistant vidéo peut lui interpeller l'arbitre.
Bien sûr, il peut recommander à l'arbitre, il peut lui dire, écoute, là, il y a un doute sur la validité du but, tu devrais aller voir l'image. Mais il ne le dit pas profondément à chaque fois.
Alors, il y a quelque chose qui a beaucoup marqué, c'est qu'il faut rappeler que ces assistants vidéo, au nombre de 4, ne sont pas dans le stade. Ils sont en fait très loin, ils sont à des milliers de kilomètres de là.
Ils sont tous à Moscou.
Il y a le centre, Moscou.
Voilà, tout à fait. Le centre est à Moscou. Donc, il y a 33 caméras. Ils ont 33 caméras à leur disposition pour visionner les rencontres. 4 assistants, dont 2 qui s'occupent du hors-jeu. Et donc, ils communiquent par oreillette à distance avec l'arbitre qui est
Mais
sur les terrains.
On sait tous, pour l'avoir vécu alors des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois, qu'on ne ressent, qu'on ne perçoit et qu'on n'a pas la même vision du jeu dans un stade, a fortiori quand on est arbitre, et à l'extérieur, même avec un appui de vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohésion, de cohérence?
Ah, c'est vrai qu'ils sont contents, ils sont dans un stade. Bon, ils vivent les émotions, ils sont au cœur du match. Là, ils sont à plusieurs milliers de kilomètres. Alors, on dira qu'ils ont peut-être plus de recul pour mieux voir les choses. Bon, voilà.
Ça vous gêne ou ça vous gêne pas qu'ils soient à distance? On aurait pu imaginer qu'ils soient dans le stade, qu'ils aient une vision et sur le terrain et qu'ils aient leur.
En France,
comme tous les journalistes,
bien sûr,
par exemple.
En France, on a testé pendant la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, les arbitres étaient dans un van sur le parking. Je crois que ce sera le cas l'année prochaine en France, on va utiliser la vidéo, mais il y aura aussi un centre à Paris où ils seront tous basés pour les matchs.
Autre cas d'école, le laps de temps entre l'action et l'interruption du jeu, c'était le cas notamment lors du match Suède-Corée. Il y a une faute dans la surface pour la Suède, l'arbitre ne siffle pas, les Coréens partent et contre-attaquent, ils vont presque marquer et hop, coup de sifflet de l'arbitre parce qu'en fait, il a un doute sur l'action précédente.
Oui, et imaginez qu'il y aurait eu but sur la contre-attaque.
Mais oui.
Ça peut arriver. Ben vous savez ce que dit la règle?
Non.
On refuse le but et on revient à la première faute, pénalty. Ça aurait pu être le cas sur France-Australie quand l'arbitre siffle pénalty pour les Français. Sur la contre-attaque, les Australiens auraient pu marquer un but. Mais le règlement dit qu'on doit l'annuler et revenir à la première faute. Alors, il n'y a pas, le processus d'analyse n'est pas soumis à une limite de temps.
Oui.
C'est-à-dire que Massimo Busacca, que le directeur de l'arbitrage à la FIFA, a déclaré que s'il fallait prendre 10 minutes pour prendre une bonne décision, on prendrait 10 minutes. Donc on va risque de jouer non pas 90 minutes, mais 100, 110, 115 minutes.
Quoi. Est-ce qu'on ne va pas d'une façon ou d'une autre vers une déresponsabilisation des arbitres?
Et c'est le risque. Moi, si j'étais arbitre aujourd'hui, notamment arbitre assistant, je n'aurais pratiquement plus mon drapeau sur les hors-jeux. Parce que la vidéo et l'image viendraient à mon secours s'il y avait but derrière. Dans le doute, je dis bien dans la situation de doute. Je laisserais filer parce que c'est tellement difficile de juger le hors-jeu, vous savez. Il faut avoir un œil sur le ballon et un œil sur l'avant-dernier défenseur. Il faut avoir un strabisme divergent. Donc c'est compliqué. Médicalement, c'est injugeable. Voilà. Donc maintenant, moi, si j'étais assistant, je laisserais jouer. Et au final, on regardera ce que dirait l'image.
Bah,
c'est pareil, dans les surfaces de réparation, pour des contacts entre défenseurs et attaquants, quand on a un vrai doute, eh ben, on ne siffle pas, on attend ce que montre l'image.
Bon, bah, vous soulevez en tout cas une question très importante. Un dernier mot, Bruno Derrien. La vidéo arrive en France en Ligue 1, hein, l'année prochaine. Où seront justement les assistants vidéo? Dans les stades?
Non, ils seront tous, a priori, basés à Paris. Et il n'y en aura que deux par match.
Donc, après l'œil de Moscou, on va avoir l'œil de Paris.
Si voilà, j'ai bien compris. Oui.
Merci beaucoup, Bruno Derrien, d'être venu nous donner ces éclairages très intéressants après une semaine d'assistance vidéo dans cette Coupe du Monde. Et puis, rendez-vous ce soir à 17h pour voir comment ça va se passer avec nos Bleus.